pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Il y a deux semaines environ, Samantha Power, ambassadeur américaine auprès des Nations Unies, dans un vibrant discours relayé par les médias du monde entier, s'est indignée des exactions commises par le gouvernement de Bachar el-Assad et ses alliés à Alep. Êtes-vous incapable de remords ? Les a-t-elle invectivées ? N'y a-t-il vraiment absolument rien qui puisse vous faire honte ? S'est-elle offusquée ? Toute cette semaine, Les Pieds sur Terre s'intéressent à cette émotion, la honte ou ce sentiment, ou relation affective, comme on veut. Dans son livre « La honte est-elle immorale ?», Ruven Ogien donne un autre exemple d'une tentative de faire honte ou de provoquer cette émotion. Ainsi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés forcèrent les Allemands à défiler dans les camps d'extermination à peine libérés. Ils placardèrent des photos de cadavres et de visages décharnés dans les rues de l'Allemagne vaincue. L'intention, apparemment, n'était pas d'informer les citoyens allemands de ce qui s'était passé, au cas où ça leur aurait échappé, écrit le philosophe, mais de leur faire honte, un peu comme ce que souhaiterait Madame Power, leur faire éprouver une certaine forme de douleur. Mais le résultat de ce genre de tentative n'est pas assuré, poursuit Ruven Ogien. Lorsque l'intention de faire honte se donne comme telle et qu'elle est reçue de cette façon, elle ressemble alors plus à une tentative d'humiliation et peut aisément se transformer en colère ou en ressentiment. Dans le cas des vaincus, si on peut dire, en tout cas des faibles. Éprouver de la honte, ça ne se commande pas. Quant à faire honte aux puissants, aux dictateurs ou aux riches, qui devraient par exemple avoir honte de posséder à eux seuls plus que le PIB du Burundi, quant à essayer de provoquer en eux un sentiment proche de la culpabilité, du remords, de l'embarras, ce n'est pas seulement paradoxal, conclut Ruven Ogien, mais complètement naïf. L'injonction de Madame Power à Bachar el-Assad est de cette nature. Sur le marché de la terreur et de la géopolitique contemporaine, la honte n'a pas sa place, elle n'a pas non plus de valeur morale ou autre. Ceux qui s'inquiètent de notre incapacité grandissante à ressentir de la honte pourront se consoler en se disant qu'à défaut de faire honte à ceux qui le méritent sans doute, la honte s'éprouve à la première personne comme un sentiment à l'égard de soi, dirigé vers soi-même, qui n'a guère de fondement moral. Si j'ai honte de ma mère ou de mon apparence physique, ce n'est pas pour des raisons éthiques. C'est une émotion négative liée à une certaine norme ou idée qu'on a de soi. Ce sentiment se rapproche alors de la fierté, de l'orgueil et de la vanité, mais dans une version négative, franchement désagréable. Il n'en est pas moins complexe et intéressant, comme on l'entend aujourd'hui avec trois histoires de honte, trois courageux qui ont bu leur honte pour se confier au micro de Stéphanie Labadie.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors cette année-là, j'avais 18 ans, je venais de passer le bac, je m'étais interrogé sur quoi faire pour l'avenir, un avenir un peu différent, pas classique, donc je suis un peu parti à l'aventure dans une école militaire. Donc le premier jour dans cette école, on se sent un petit peu perdu, mais tout se passe normalement avec... les formalités administratives, on nous donne des affaires, on passe à la visite médicale. Le lieu était plutôt sympa, ça se présentait comme un campus universitaire plutôt accueillant. Et tout au long de cette journée, on était accompagnés par les redoublants de la première année qui nous disaient où aller, quoi faire. Et le soir, donc on doit se retrouver dans le hall général. Et c'est là qu'on voit arriver une tripotée d'anciens en uniforme de parade officiel. Et là, naïveté sans doute de ma part, je ne m'y attendais pas, mais on comprend qu'il va y avoir un bizutage. Donc là, ils nous conduisent en nous faisant longer les murs, en nous disant de baisser la tête, de ne pas parler. Ils nous conduisent jusqu'à un amphithéâtre. Et ils nous font installer dans cet amphithéâtre en se mettant serrés sous les tables les uns contre les autres et commencent à nous gueuler dessus et à nous faire apprendre les traditions de l'école. Donc voilà, c'était de mettre un maximum de personnes dans un minimum d'espace, comme ils aimaient l'expliquer. Et donc ça durait toute la soirée. Donc le soir, on va dormir dans les couloirs. Et on est réveillé au matin pour reprendre le même type d'activité. On nous fait faire des choses à chaque fois ridicules, où le but est d'humilier en fait l'individu à chaque fois. Sur le coup, j'ai pas bien saisi ce qui allait se passer. Je me suis dit, bon, c'est peut-être très bref, ça va pas durer. Et en fait, on s'aperçoit que ça dure et que ça ne s'arrête pas. Il y avait le bizutage officiel les premiers jours de l'arrivée, sur environ 5 jours, une petite semaine. Et après, c'était officiellement terminé. Mais à tout moment, des anciens pouvaient vous en prendre à vous, dans votre chambre, en pleine nuit. Et c'est cette partie-là qui était bien plus lourde que la partie officielle. Puisque c'était, là, pour le coup, sans limite. Aucune limite. Qui était assez humiliant et que donc tous avons subi, c'était d'être pris à partie et là, de se faire soulever par le slip pour l'arracher et le mettre autour du cou. Ouais, ça c'est de devoir mettre la tête dans les toilettes, c'est pas nécessairement très gratifiant. Mais c'est pas tant les faits en eux-mêmes qui sont condamnables. Hein, mais le rapport que ça suscite entre les individus où on est obligé de se soumettre pour obtenir une bienveillance. Et c'est ce système pervers qui est insupportable. Derrière un discours de promouvoir une cohésion, ça suscitait finalement des enjeux au sein du groupe très violents. La personne définie comme rejetée, bouc émissaire, la personne appréciée. Donc ce qui m'était dans une difficulté de est-ce que j'ai le courage de dénoncer, est-ce que j'ai le courage de refuser, mais voilà, à quel prix ce sera par la suite. Moi je me suis senti très perdu dans une incapacité à avoir une distance, une réflexion vis-à-vis de cette institution. Avoir du mal à comprendre qui sont les gens qui y participent, voire difficilement une confiance en d'autres personnes, que ce soit élèves ou les autorités d'école. J'en parlais très peu avec ceux de ma promotion où il était difficile d'évoquer une remise en question de ce système-là. Voilà, est-ce que les propos allaient être apportés Est-ce que ça allait être à l'origine d'une exclusion On est assez seul, hein, mais tout le monde est assez seul dans ce fonctionnement-là. À l'issue du bizutage, si on l'avait suivi, on nous attribuait un parrain qui allait nous accompagner pour les études. Donc quelque chose de bienveillant, et le plus insupportable est ce rapport-là. Je me soumets, j'accepte l'humiliation, je serai à mon tour témoin de l'humiliation d'autres par la suite, et j'obtiens la bienveillance du système. Et ça, c'est le plus grave, selon moi. C'est une logique de collabo, en fait. C'est, voilà, est-ce que je vais sauver ma peau, est-ce que je le dénonce, je ne cautionne pas, mais si je le fais, à quel prix, on va à l'encontre de ces principes pour s'en sortir. Je me souviens d'un soir où on était obligé de participer à un repas de famille. Alors ce qu'on appelait une famille, c'était l'ensemble des parrains, le parrain ayant lui-même un parrain, et comme ça, sur les différentes années des élèves. Et donc nous étions obligés de participer à ce repas, qui évidemment reposait sur obliger le nouveau à boire de l'alcool, et de réciter les traditions de l'école par cœur. Et là, je réalise qu'ils sont vraiment tous très cons. Et je me suis dit, il faut que je parte. Et donc, c'est le responsable de la compagnie qui m'avait retenu en banalisant les choses, comme quoi c'était partout pareil, que ça allait passer, que c'était comme ça au début, me disant que si je partais à cause de ça, c'est que j'étais pas bien solide. Je me suis dit qu'il devait peut-être avoir raison. Et donc j'ai pas eu le courage à ce moment-là de partir. Et à plusieurs reprises, par la suite, j'ai demandé à partir, et là encore, on m'expliquait que de vouloir partir de cette institution, c'était d'être une merde. Voilà. Et au bout d'un moment, on se dit, on réalise que le système est complètement déconnant et que toutes les relations fonctionnent sur cette tradition du bizutage et que, quoi qu'il en soit, coûte que coûte, il faut se barrer. J'avais 6 ans d'années d'études à venir et c'est en 5e année où je me suis dit, non mais là, ça va plus être possible du tout. Voilà. Quand je suis parti, ça a été la libération totale. On a l'impression de sortir de prison. C'est respirer à nouveau. C'est un bien fou, quoi. Un très beau souvenir. Et j'ai vu l'école pour la dernière fois que je suis parti. Je me souviens de ce trajet. Je me suis dit, ça y est, c'est terminé. Et là, c'était vraiment un grand soulagement. Aujourd'hui, c'est digéré, mais avec ce regret-là, quand on décrit un petit peu ce qui se passait, le rapport de soumission, d'humiliation, après, par des choses concrètes, on a honte de le raconter, parce que, mais pourquoi t'as accepté ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a accepté ça? C'est une vraie question. Et ce que ça m'a appris, c'est qu'une personne peut être confrontée à un système qui le dépasse. Comprendre qu'effectivement un groupe humain peut devenir tout à fait débile, dangereux, sur fond d'un discours de tradition et de ancré dans le temps, et de comprendre que voilà, ça se remet en cause, ça peut se remettre en cause et que ça doit se remettre en cause.
En mai 68, j'étais en quatrième. Dans le petit établissement où j'étais, qui était à Vincennes, bien évidemment, il y a eu une grande grève. Il y avait un représentant des secondes, un représentant des premières, un représentant des terminales, et un représentant pour toutes les autres classes, et c'était moi. J'étais un garçon turbulent, plutôt gentil, mais turbulent, et puis... avec une langue bien pendue, j'avais un discours marxiste en permanence, et à chaque fois qu'on nous posait une question, je répondais grosso modo par la lutte des classes, et s'il fallait faire des maths, on n'était que dans une comptabilité, classe contre classe, etc., etc. Enfin voilà, le genre de môme insupportable. Et bien évidemment, j'ai rencontré des copains, des copines, et qui eux étaient militants, qui étaient militants plutôt maoïstes, et je me suis retrouvé embringué là-dedans. Je suis presque sûr que je n'avais pas compris grand-chose du maoïsme, sauf une chose, un élément, qui est peut-être l'élément le plus important, c'est que c'était une nouvelle révolution, c'était un nouveau monde, et que ce nouveau monde... Il arrivait au même moment où nous-mêmes, nous voulions construire un nouveau monde. Il arrivait pile poil au bon moment. Mais en tout cas, j'y croyais. Je croyais quand même à cette idée du collectif. Je suis d'une famille d'origine juive et donc qui aurait eu du mal à être au PC. Maoust est assez loin de toutes les questions d'antisémitisme. Donc le maoïsme était possible. J'ai quitté le lycée, hein, j'ai eu mon bac et je suis allé à la fac et j'ai fait un passage à la fac de Vincennes. Et là, c'était une immense cour de récréation. Et un jour, je vais à Vincennes, comme j'y allais d'ailleurs tous les jours, hein, sans exception. Et on traverse le Grand Souk. On se retrouve très naturellement, hein, tous. Il y a une manière de s'agglomérer... de faire groupe qui était très automatique. J'ai pas le souvenir qu'on ait quelque chose de très construit autour de ça, mais bon, hop, on faisait groupe et on est allé dans un amphi, un prof, je ne me souviens même plus de quelle matière, je crois que je m'en moquais de la matière qu'il était censé nous faire étudier, mais je me souviens très bien que notre rôle, c'était de l'empêcher de faire cours. C'était un professeur qui était lié au Parti communiste, donc c'était une sorte d'ennemi. Hein. Il était de cette vieille révolution qui avait assassiné tant de gens. Et donc on l'empêchait en descendant l'amphi en disant « Mao Tse-Tung Sui », ce qui veut dire « Longue vie au président Mao Tse-Tung ». Quand on rentrait dans l'amphi comme ça, on était quand même assez nombreux, hein, 30-40, les autres étudiants étaient un peu terrorisés, et le prof, là, on l'écrasait complètement. Il n'y a jamais eu vraiment de violence physique, mais on était tellement à la limite. Et c'était un collectif, c'est-à-dire que c'était la force de ce collectif, c'était ni moi, ni celui qui était à côté de moi, c'était le groupe qui faisait ça. Et ce qui me marque beaucoup, en y repensant, c'est que je ne me souviens plus du prof. On n'avait pas imprimé son image, son corps même. Il n'était plus rien. Il n'était qu'un opposant à ce qu'on était, nous, en train de penser. Et on arrivait à le faire partir, donc on gagnait, point barre. Ça nous suffisait. Voilà, la négation de l'être humain qui était en face de nous, c'est ce qui permet de passer à l'acte de la violence physique. Et là, ça y est, on y était. Et rétrospectivement, je trouve ça terrifiant. Peu de temps après, je suis allé à Bologne où j'avais des attaches. J'avais des camarades, c'était vraiment des camarades de Lotta Continua, hein, très exactement, donc d'une organisation d'extrême gauche italienne. Et je suis allé à une manifestation. J'ai vu un gars que je connaissais pas très bien, mais que j'avais souvent vu à Bologne sortir un P-38 et tirer. Et là, ça a été fatal. C'est-à-dire que je savais que si je continuais, il y aurait le passage à l'acte de la violence physique. Et ça, c'était trahir peut-être l'histoire de ma famille. Peut-être que d'un seul coup, il y avait le passé qui me rattrapait. Ça mettait en perspective tout ce que j'avais nié, c'est-à-dire tout l'avant 68. Et rétrospectivement, j'ai eu honte de toutes les fois où j'étais à la limite de cette violence. Au nom de quelque chose qui allait être une ouverture, mais on pratiquait finalement une violence qui existait depuis longtemps. On la déplaçait, mais on n'était pas différent. Et du coup, je n'étais pas différent. Moi qui suis pas très grand, pas très costaud, qui m'étais, quand j'étais môme, toujours abrité avec un grand, finalement je me suis aperçu que j'avais toujours vécu comme ça. Mai 68, l'après mai 68, ces années d'errance militante, elles avaient certainement permis que je n'ai plus besoin d'un grand, sauf que c'était à condition de passer un moment ou un autre à la violence physique, et ça non. Non, non. À chaque fois que je repense, c'est ça qui m'en reste. Et j'ai vraiment honte. J'en ai un peu des sueurs froides. Et ça se symbolise beaucoup à la fac de Vincennes, avec ce prof, avec autour de ça. Je ne suis pas passé loin de ce qui aurait pu être le plus terrible. C'est d'en avoir jamais honte.
France Culture, les pieds sur terre.
L'histoire de ma honte personnelle commence quand j'avais 4-5 ans. Donc c'était peu de temps après la guerre, puisque je suis née en 1944. Mes parents avaient un magasin dans la rue Léopold-Bélan à Paris, près des Halles, dans les Halles même, les anciennes Halles avant d'être à Rungis. Et donc, on s'amusait bien, tous les enfants de commerçants, on s'amusait dans la rue Léopold-Bélan, c'était bon enfant. On se connaissait tous les gens connaissaient mes parents, tous les gens me connaissaient. Bon, on m'appelait Kiki, tout le monde connaissait Kiki, donc. Il n'y avait pas de problème, pas beaucoup non plus de voitures. Tout allait bien. Et puis un jour un voisin, le petit-fils de la coutelière d'à côté de chez nous, qui s'appelait Maurice, le petit Maurice, on l'appelait toujours le petit Maurice, Un jour, il me demande, tout à fait naturellement, il me dit, mais est-ce que tu as un zizi ? Ah, oh, un zizi. Alors là, faut se remettre dans l'époque, hein, dans les années avant les années 50, il n'y avait pas de télévision. Un zizi, alors ça c'était, je ne savais pas ce que c'était qu'un zizi. Donc je lui ai dit que je ne savais pas ce que c'était qu'un zizi. Oh ben il me dit alors, je vais te montrer. Donc on va dans un couloir, le couloir d'à côté de la boutique de chez mes parents. Et puis il baisse sa culotte et moi je baisse ma culotte. Et il me dit voilà, il me montre son zizi. Donc moi je regarde et il me dit, enfin je comprends que lui et moi, on n'était pas fait de la même façon. Et à ce moment-là surgit ma mère. Je ne sais pas comment et pourquoi elle est arrivée là. Elle commence à hurler en me disant « Oh, 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 mais les vicieux, regardez, tu n'as pas honte, tu n'as pas honte. » Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment le sentiment que la terre s'ouvrait, que c'était... Il y a quelque chose qui s'est disloqué à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui s'est... J'avais l'impression de craquer de partout. J'aurais voulu me faire petite souris et rentrer dans une... que la terre s'ouvre sous moi, hein, sûrement, enfin, avec mes mots d'aujourd'hui. Mais j'étais absolument tétanisée. Enfin, ça a duré un millième de seconde parce que ma mère m'a prise par l'oreille. Elle m'a sorti. Alors, le gamin est parti en courant. Le petit Maurice est parti en courant. Et complètement, je ne peux même plus trouver de mots, c'était le monde qui s'écroulait. Elle m'a poussé avec l'oreille, elle m'a tiré pendant toute la rue Léopold Bélan en disant « Regardez, regardez, je l'ai trouvé avec le petit Maurice, regardez, quelle honte, quelle honte !» Alors je pleurais évidemment toutes les larmes de mon corps. Tout le monde voyait Kiki, la brave Kiki que tout le monde connaissait, que tout le monde aimait bien parce que j'étais assez populaire, traînée dans la rue par sa mère qui répétait « Là, la honte, je l'ai trouvé avec le petit Maurice, je l'ai trouvé avec le petit Maurice, mais regardez-moi ça !» Bon, je suis rentrée à la maison et après, c'est le blackout. Hein. Je ne me rappelle plus très bien ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Je crois me souvenir que, bon, j'ai été punie, hein, mais elle n'a rien dit à mon père. Et ça, c'est toujours resté ce non-dit, comme si c'est une épée de Damoclès, comme si je faisais une grosse bêtise, hein, parce que pour elle était une grosse bêtise, elle allait dire à mon père, alors ça c'était... Il y a eu la honte de m'avoir traîné partout et de m'avoir dit que j'étais une vicieuse. Hein, voilà, elle disait, oh la petite vicieuse, tu devrais avoir honte, tu devrais avoir honte. Et en plus, cette épée de Damoclès, bon, pour moi, c'était épouvantable que mon père le sache. Mais bon, ça, on n'en a plus jamais parlé. Alors, inconsciemment, j'ai compris que la sexualité, c'était sale, que c'était laid. Et effectivement, ça m'a complètement traumatisée. À partir de là, le nom de Maurice était tabou chez moi. Hein. Je n'ai plus jamais prononcé ce mot. Donc, à chaque fois qu'il y avait un Maurice dans le circuit, je ne disais jamais son nom. Jamais plus je n'ai prononcé le nom de Maurice devant ma mère. Jamais plus. Pendant 40 ans, j'ai porté ce nom de Maurice dans mon inconscient, d'ailleurs, et jamais, jamais je n'ai prononcé ce nom. Jamais. Ça m'a vraiment porté préjudice quant à mes relations sexuelles avec les hommes de ma vie, parce que je ne me suis jamais sentie à l'aise dans ça. Il y avait toujours inconsciemment, probablement, cette tâche que c'était pas bien, quoi. C'était vicieux de voir le sexe de l'homme et d'avoir des relations sexuelles avec un homme. Donc ça a entaché ma vie pendant, c'est simple, pendant 45 ans. Puisque je n'ai réussi à avoir une relation sexuelle, enfin épanouissante, hein. C'était pas très tôt, c'était 45 ans. Donc on peut dire que pendant 45 ans, j'ai porté cette honte, ce non-dit, qui m'a fichu en l'air ma vie de femme, ma vie sexuelle de femme, bien sûr. Bon, j'ai fait quand même une psychanalyse, j'ai suivi des thérapies. Et ensuite, comment ça s'est passé? Eh bien, je suis devenue thérapeute. Et pour moi, c'est très très important la cohérence en tout. Hein, les gens qui parlent et puis qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils transmettent ou ce qu'ils enseignent, pour moi, c'est l'incohérence totale. Donc, c'est ce que j'essaie, enfin, c'est ce que j'ai toujours fait dans tous mes... dans toute ma pratique professionnelle. Donc un jour, j'animais un séminaire et on parlait des non-dits. Bon, en préparant mon séminaire, je dis, il va falloir qu'on parle d'un non-dit. Moi, je vais parler du petit Maurice. Ça s'est passé comme ça, j'avais 50 ans. Et au cours du séminaire, quand on arrive à cet exercice sur les non-dits, je dis, bon, ben, je vais vous raconter une histoire, je ne l'ai jamais racontée. C'est une histoire qui s'est passée il y a 45 ans, qui a perturbé ma vie sexuelle, enfin tout ce que je viens de vous dire. Et je me mets à raconter l'histoire du petit Maurice et j'éclate de rire. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et je me dis, mon Dieu, les gens me regardaient, tout le monde s'est mis à rire. Parce que j'ai dit, ben, vous vous rendez compte que ça fait 45 ans que je m'empoisonne la vie, alors qu'aujourd'hui, je me rends compte, moi, en tant que thérapeute, mais c'était tout à fait naturel. Le petit Maurice me demandait si j'avais un zizi. On a regardé si j'avais un zizi, c'est tout. C'était tellement bénin, c'était tellement innocent en plus, hein, vraiment, que j'ai éclaté de rire et voilà, ça m'a permis. Bon, ça a été, j'ai senti un poids énorme qui sortait de moi. J'ai même eu envie de pleurer, enfin pleurer et rire, c'était gens qui rient et gens qui pleurent, parce que il y a eu un poids énorme qui est sorti ce jour-là. J'avais 50 ans quand même, hein.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, des histoires de honte, un reportage de Stéphanie Labadie réalisé par Marie Placet. Merci à Sylviane, à Jean-Marie et à Antoine, les trois courageux qui ont accepté de nous raconter leur honte. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Sabine Zovidian, c'est notre stagiaire. Des commentaires, des réactions, des partages, c'est sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter qui vous attendent avec impatience. I'm sorry, I made you cry.